Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Je commence un message que je commence aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de décembre. Un message que je commence maintenant, et j'aimerais bien le prêcher jusqu'à la fin du mois de décembre. Et le thème, c'est de bâtisseur de rêves. Amen. De bâtisseur de quoi? Des rêves. Ah, j'aimerais bien vous préparer pour l'année qui commence. L'année 2011. Dites la 2011. Dites encore l'année 2011. Ne sera pas comme 2010. Je refuse la routine. Je refuse la routine. Amen. C'est un choix. Je dis c'est un choix. Et vivre dans la routine aussi, c'est un choix. Et dire au revoir à la routine aussi, c'est un choix. Loué soit le nom du Seigneur. Ah là, là, ça bouillonne, ça bouge là. On s'en va, on décolle. Dites à la personne à côté de toi, en entrant dans cet endroit, peu importe comment tu te sens, mais tu sortiras d'une autre manière ici. Ton esprit ne sera pas pareil. Ta façon de penser ne sera pas pareille. Ton futur ne sera pas pareil. Dieu veut t'impacter ici. Ah. Dieu veut transformer ta vie ici. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Hein. Dis-lui que le meilleur est devant toi. Ne considère plus ton passé. Et on l'appelle le passé. Maintenant, ne pleure plus pour ton passé. Considère ton futur. Oui, donnez une bonne main d'acclamation. Alléluia. On n'a pas besoin de continuer de pleurer sur le passé. Jusqu'à quand pleureras-tu de ton passé? Et le passé, on l'appelle quoi? Le passé. Eh, les amis, vous savez, c'est un choix. Attends, les amis, vous savez que c'est votre choix. Vous pouvez vous en dédier, faire toutes sortes de cérémonies de deuil. Mais vous avez constaté que les gens peuvent pleurer, ils peuvent pleurer, pleurer. Mais en fait, parfois on a tellement pleuré et on a pleuré jusqu'on a perdu tous nos larmes. Et il n'y a rien qui a changé. Rien. Rien n'a changé. Rien. Rien. Rien n'a changé. On s'est lamenté des minuit, deux minutes, jusqu'à minuit, deux minutes. Alors voyez-vous, on s'est lamenté, on a chalé, on a vu tout ce qui n'allait pas, qui ne marchait pas. Et puis finalement, comme résolution, comme conclusion, on a vu que malgré toutes nos plaintes, il n'y a rien qui a changé. Mais est-ce que veux-tu continuer comme ça? Lolo. Pas d'allure, lolo. Il faut que tu prennes les choses en main en disant lolo. Il faut que les choses changent. Et les choses changent pour quelqu'un qui veut voir les choses changer. Mais si tu ne veux pas voir les choses ne changeront jamais. Dites avec moi, j'ai ma vie. Et je vais la vivre. Dites avec moi, j'ai une destinée. Et je vais y aller. Ta destinée n'est pas ma destinée. Attends, attends, attends. Ta destinée n'est pas ma destinée. Mon destinée n'est pas ta destinée. Le vôtre. Mais moi, j'ai pris. Non seulement je prie, j'écoute la parole de Dieu parce que j'ai besoin de la foi. Et non seulement j'ai besoin de la foi, j'écoute la parole de Dieu, mais je la pratique. Pourquoi? C'est parce que tous ces ingrédients-là m'amènent vers ma destinée. Et je refuse de vivre une vie de routine. Je refuse de vivre 90 ans sur la terre sans accomplir ce que Dieu a prévu que je puisse vivre. Je vais vivre complètement l'accomplissement de ce que Dieu avait planifié. Et je refuse de quitter la terre tant que je n'ai pas encore accompli ce pour lequel Dieu m'a envoyé sur la terre. Je refuse. Je refuse. Et quand j'aurai tout fini, quand je serai vide, vide, dites vide, il ne faut jamais mourir rempli. Il faut mourir vide. Ce qui veut dire que tu as tout déversé, tout ce que Dieu avait placé en toi. Dites à Satan, je ne mourrai pas rempli, je mourrai vide. Et tant que tu ne t'as pas encore déversé, il y a d'autres choses, parfois vous ne comprenez pas de quoi je parle. Je dis mourir vide, Mourir vide, ça veut dire prendre tout ce que Dieu avait mis en toi que tu devrais réaliser, être sûr que tu as tout donné. C'est ça, mourir vide. Mourir rempli, ça veut dire garder tout, passer tout ton temps à se plaindre, voir tout ce qui ne va pas. Ainsi de suite, le Seigneur te dit, mais pourquoi tu vois seulement ce qui ne va pas alors que j'ai mis des potentiels en toi capables de t'amener loin? Réveille-toi et arrête de faire le deuil. C'est comme nos pays d'Afrique. Plein de choses sous la terre. Plein de choses, l'Afrique, Jésus revient et il va retrouver tous ceux qu'il a mis en Afrique, plein là-bas. Mais il continue à se plaindre. Où sont les Européens pour nous aider? Ça ne va pas. C'est ici, là. Et cette même mentalité-là, parfois, ça nous suit. Mentalité de dépendance. Quel mandat. Mais on vous dit, mais vous avez tout. C'est comme quelqu'un qui est là. Tu te rends compte, si on a mis 15 dollars ici, là, mais tu ne sais pas qu'il y a 15 dollars. Malheureusement, il y a d'autres qui savent qu'il y en a là. Mais si tu ne sais pas qu'il y a 15 dollars, tu vas mourir de faim, tu vas gréver. Les amis, un changement de mentalité va t'amener loin. Qui est là? Bon, parfois il y a d'autres paroles que tu ne voulais pas entendre, mais tu dois l'entendre quand même. Les amis, la réussite commence par un choix, une décision. Et on peut aller loin. Mais tout commence aussi par le changement de mentalité. Tant qu'ici ça ne change pas, tant qu'ici ça ne change pas, je vous dis que tant que la tête, notre façon de raisonner, ne s'aligne pas, parce que nous, étant les gens du royaume, il faut que notre façon de penser s'aligne selon notre royaume. Hello? Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Christ l'a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ça veut dire que vivant encore sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes dans un système qui n'a rien à voir avec le naturel, mais un système spirituel. Il y a le système de ce monde, et le système de ce monde, vous voyez que ça ne marche pas, ça coule, hein, malgré toute la réforme que le monde fait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous, béni soit le nom du Seigneur, nous ne devons pas accepter d'être conduits selon le système de ce monde. Parce que le système de ce monde, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais le système de ce monde ne peut pas vraiment t'apporter une vie de victoire par rapport à tout ce que... De toute façon, l'injustice a touché tellement un niveau incroyable. La corruption. Moi, j'étais étonné dans d'autres places où je suis parti, mais vous êtes étonné de voir comment la corruption, tu sens la corruption. Dire les gens sont pollués mentalement. Pollués. Et tout doit recommencer. Vous savez, souvent, parfois, je le disais que souvent, ce qui nous détruise. Bon, nous, dans la culture des hommes de couleur, nous croyons, quand quelque chose ne va pas, on pense que c'est les sorciers. Vous êtes d'accord? Oh, c'est les sorciers. Ah, c'est ma tante. Ah, c'est mon neveu. Ah, c'est mon papa. Ah, voyez-vous, maintenant, ça fait partie d'une culture. Culture, mais de la bassesse qui ne t'amène nulle part. Il y a d'autres personnes, il est malade, il dit, ah non, c'est les sorciers. Mais tu vois, parfois, les gens d'autres couleurs, ils ont la même maladie. Mais pour lui, il doit trouver. Pourquoi? Oh non, c'est son oncle. Mais attends, mais ton voisin-là qui a une autre couleur que ta couleur, il a la même maladie. Mais pourquoi toi, tu ne vois que sorcier? Ici, là, cette culture. Mais nous devons embrasser notre culture du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a sa culture. Le royaume de Dieu a une autre culture. Et cette culture-là ne peut pas s'imprégner en nous tant que notre façon de penser ne change pas. Penser comme Dieu pense. Loué soit le nom du Seigneur. Allons-y, encore. Enfance de bâtisseurs. Lisons d'abord dans 1 Jean chapitre 5. Non, commençons par Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Bon, tous, on va travailler. La personne qui dort à côté de toi dit, ici, là, on ne peut pas dormir jamais. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? La paix en qui? Au système? Dans votre gouvernement? Dans l'économie? Il dit, je vous ai dit ces choses. Qui parle ici? Jésus. N'oubliez pas, Notre sujet d'aujourd'hui, c'est des bâtisseurs de quoi? Des rêves. Il dit, je vous ai dit ces choses. Jésus parle. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Jésus voulait dire ici, il dit, les paroles que je vous dis doivent créer une atmosphère. Des mots que je vous dis, moi, Jésus, doit créer une atmosphère qui n'est pas l'atmosphère de tout le monde. Ceux qui n'écoutent pas mes paroles vivront dans une autre atmosphère. Mais vous qui recevez mes paroles, l'atmosphère que mes paroles vont créer en vous serait totalement différente. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Je vous ai dit ces choses afin que ces choses que je vous ai dit qui est ma parole créent en vous une atmosphère de paix. De paix, non pas de troubles. De paix, non pas de confusion. De paix, non pas d'inquiétude. De paix. Qui me suit? De paix. Il dit, je vous ai dit ces choses. Parce que ces choses que je vous dis, la parole que je vous dis premièrement, vous distingue. Quand nous écoutons la parole de Dieu nous distingue. Et Dieu, Jésus-Christ dit, je vous dis ces choses. Je vous dis, j'ai utilisé ma bouche pour vous dire des paroles, mais des paroles qui vont créer une atmosphère dans votre façon de voir, dans votre façon de penser, dans votre façon de raisonner, dans votre cœur. Vous aurez une paix que les autres ne peuvent pas palper. Mais vous, mes paroles vont créer une assurance. Mes paroles vont créer une paix. Mes paroles vont créer un avenir. Mes paroles, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il dit la paix en moi. La paix en moi. Quand il dit en moi, Jésus, il est la parole. Que votre paix dépende de mes paroles. Ça veut dire quand il dit afin que vous ayez la paix en moi, ça veut dire que ce qui va créer la paix en vous, c'est les paroles que moi je vous ai dit. Les amis, ce n'est pas ce que la télé nous dit qui vont créer la paix. Mais notre paix est basée sur ce que Dieu nous dit. Sur les promesses de qui? De Jésus. Regarde-moi, tu sais que tu peux regarder en face de toi. Regarder une situation bizarre. Mais ce qui te donne une autre façon de voir la chose, c'est la parole. Et c'est cette parole-là qui suscite une paix. L'atmosphère, tout est imbibé d'une paix. C'est comme un bébé entre le bras de sa maman. Elle ne peut pas raisonner que sa maman peut le jeter à terre. Mais il y a toujours des mamans qui le font. Mais il faut connaître quel type de maman. Vous connaissez l'histoire de cette jeune fille-là qui volait dans l'avion, qui voyageait et finalement, il y a eu des turbulences. L'avion titubait de gauche à droite. Et finalement, les hôtesses l'ont réveillé. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. L'avion est en train de traverser des moments de turbulence. Et la fille regarde et dit, mais qui est en train de piloter l'avion? Elle dit, oui, c'est toujours ton papa. C'est le papa. C'est le papa qui est le pilote. On lui dit, non, c'est ton papa qui est toujours à bord. Elle dit, ah bon, c'est mon papa. Alors, laisse-moi dormir. La fille s'est endormie parce que, sachant que c'est son papa qui pilotait l'avion, elle connaissait son papa. C'est vrai qu'elle ne connaissait pas les lois de la nature, mais elle savait que son papa, c'est un bon pilote. C'est ça qui doit nous arriver, nous. Peu importe le turbulence. Peu importe le turbulence. Peu importe le turbulence. Je disais, peu importe le turbulence. Et la vie a plusieurs turbulences. Mais quand tu connais, c'est lui qui a le contrôle. Ta vie n'est pas contrôlée par le système d'ici. Non! Si tel est le cas, tu vas échouer lamentablement. Ta vie n'est pas contrôlée selon le système d'ici, mais tu sais, c'est lui qui détient le volant, le Dieu de l'univers, prince de paix, ah, le maître qui contrôle tout l'univers, des milliards et des milliards. La Bible dit que tout est contrôlé, et la Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Attends, tu peux être soutenu par sa parole. Vous savez, c'est ton choix de faire. Une mauvaise mine comme ça. Oh, bah. On est habitué à écouter ça. Amen. Tu peux t'habituer et tu ne verras rien. De toute façon, je ne m'adresse pas à toi. Les habitués, moi, je ne m'adresse pas à eux. Moi, je m'adresse à ceux qui ont soif. Ah. Mon Dieu. Afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez, il continue la phrase, il dit quoi? Vous aurez de la tribulation, vous aurez des tribulations dans ce monde, vous aurez des tribulations au Canada, vous aurez des tribulations au Québec, vous aurez des tribulations à Montréal, vous aurez des tribulations. Tribulation quoi? Tribulation, ça veut dire tribulation. Tribulation, ça veut dire tribulation. Vous aurez des factures à payer. Vous aurez Hydro-Québec. Vous aurez tous les impôts, les taxes qui vont s'ajouter. Vous en aurez. Et vous aurez de quoi hurler. Mais le Seigneur vous dit, ne vous branchez pas sur ça. Sachez que j'ai plusieurs réserves. Et dit, comptez sur moi. Ne laissez pas toutes ces choses-là amener l'angoisse. Vous savez combien de maisons, parfois qui décadent, dérapent seulement en voyant toutes les factures, toutes les lettres qui arrivent à la boîte aux lettres le lundi. Et tu vois l'homme changer d'attitude, la femme changer d'attitude. Finalement, personne ne dit bonjour. Tu vois la facture, quand est-ce que tu vois la facture? Et tout déclenche. Il n'y a personne, qui peut dire, attends, l'Éternel est mon berger. Il n'y a personne. L'Éternel est mon berger. Oui, on va apprendre à gérer. Quand ça rentre 1000, on va gérer cela bien. Quand ça rentre 2000, on va bien le gérer. On ne va pas ramasser tout. On ne va pas acheter n'importe quoi, mais on va gérer. Et ça va enlever des pressions. Ça fait que tu n'es pas obligé d'acheter quelque chose que tu sais que tu n'as pas besoin pour le moment. Ça peut enlever plusieurs pressions. Tu n'as pas besoin de passer votre carte, alors que tu n'en as pas besoin de passer. Tu te crées des ennuis dans les jours à venir. Arrêtez, maîtrise-toi. La maîtrise de soi, c'est de dire non, je ne passe pas la carte. Ce n'est pas un besoin. Au nom de Jésus, je te résiste. Et puis tu comptes. Qui est avec moi? Je disais, qui est avec moi? Et dit, vous aurez des tribulations. Vous savez, les tribulations, ça peut venir de plusieurs manières. Aujourd'hui, je vais seulement vous expliquer ce qu'il faut, parce que je vois. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Le Seigneur dit, mais prenez courage. Est-ce qu'il dit, il ne dit pas, ne pleurez. Il a dit, prenez courage. Qui il a dit qu'il doit prendre courage? Hein? Ce n'est pas le pasteur qui va prendre courage à ta place. C'est toi qui dois prendre quoi? Courage. Ça veut dire que tu dois prendre les choses en main. Tu dis, je prends courage. Vous savez, en face des événements, en face des situations, c'est toi qui dois prendre courage. Tu dis, avec tout ce que je reçois, mais l'opportunité est là pour la vivre. Mais l'opportunité est là pour la mettre en pratique. Ça veut dire, ce que je reçois me donne quoi? Le courage. Maintenant, je ne vais pas en vouloir à qui que ce soit. Parce qu'au moins, je peux m'en sortir par rapport à ce que je reçois. Et dit, mais prenez courage, j'ai vaincu. Il dit, prenez courage, parce que ce que vous pensez comme étant un problème n'est pas un problème. J'ai la solution. Il dit, j'ai la solution. Qui est là? Passons un peu rapidement. Dans 1 Jean 5, 4 à 5. Il continue. Il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu. On dit quoi? Tout ce qui est né. De quoi?
De Dieu.
Tout ce qui est né. De qui?
De Dieu.
On ne dit pas tout ce qui est né de M. Kouemé, M. Makaya, qui a donné naissance à M. Ndelo. Non, non. Mon papa physique, qui s'appelle M. Makaya Kouemé, a donné naissance à... Mais attends. Ça n'a pas de sens. On ne parle pas de la naissance physique. La première fois que tu es né avec l'aide d'Antoinette et puis d'Alfred. Mais ce n'est pas de cette naissance-là que la Bible parle ici. Qui est là?
Amen.
Attends, je disais qui est là.
Amen.
Mais on parle de parce que tous ceux qui sont nés de Dieu. Attends, il y a la première naissance où tu es né par l'aide d'un homme et d'une femme. Mais la naissance dont on parle ici, la Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu. On dit bien tous ceux qui sont nés. De qui?
De
qui? De qui? Alors, peu importe comment tu es né, dans quelle famille tu es né, peu importe si tu es né dans quelle famille, même si ton papa n'est pas connu, même si ta mère n'a pas connu, même si votre famille est connue à peine dans votre village, ce n'est pas un problème. Mais la Bible dit ceci, que ceux qui sont nés tels que parce que tu es né de Dieu. Oh non, parce que tu sais, notre famille, personne ne le connaît. Et après, tu sais combien de familles qui sont connues? Et tu penses que c'est pourquoi ils ont la paix? La Bible dit tous ceux qui sont nés, il faut bien faire la part des choses entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Ici, on parle de parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, ça veut dire qu'il y a ceux qui sont d'abord nés par un homme, une femme, ce n'est pas cette naissance-là. Mais on parle de la nouvelle naissance à tous ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, Dieu les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair et du sang. Non de François et de Madeleine. Mais ils sont nés quoi? De l'esprit. Ils sont nés de Dieu. La Bible dit parce que tous ceux qui sont nés de Dieu font quoi? Échouent constamment. Qu'est-ce qu'ils font? Ils triomphent de quoi? Du monde et son système. Il dit tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont de nouvelles personnes, tous ceux qui sont de nouvelles créatures, dans leur esprit, même si leur corps n'a pas changé, mais que leur esprit est né de nouveau, ils s'identifient comme étant membres de la famille royale. Et étant membres de la famille royale, Jésus est le roi. Et étant prince dans ses royaumes, je n'ai jamais vu le prince Charles, mon Dieu le Père, en Angleterre, je n'ai jamais vu toutes les Philippes, je ne sais pas quoi là. On n'a jamais vu de prince, mon Dieu, marcher dans la rue. Et nous, nous sommes nés dans une famille royale, un royaume qui ne peut être bouleversé ni changé. Vous savez que les royaumes de ce monde peuvent changer en république. Il y a eu beaucoup de royaumes qui ont changé de république. Mais nous, notre royaume ne changera ni en république. Qui est là? Merci. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, ils triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Mon ami, on peut s'asseoir là et puis parler de grandes choses. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, triomphent. Regarde la personne à côté de toi. Si tu es né de Dieu, tu es appelé à triompher. Triompher, ça veut dire vaincre. Triompher veut dire succès, réussite. J'aimerais bien te le dire, que tu es condamné à réussir. Tu es l'eau. J'aimerais bien qu'on réveille un peu des gens qui sont là et puis qui sont comme s'ils entrent dans le cimetière. Si là, ce n'est pas un cimetière ici. Là. C'est un endroit de connexion. Dites connexion. Quand tu viens ici, tu es connecté. Dites connecté. Ah. Parce que tous ceux qui est né de Dieu. Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il dit triomphe. Ce qui veut dire que si tu es né, dès le jour que tu es né, dès le jour que tu as dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, je vais vous le dire, tu peux ne pas le croire, mais tu verras ceux qui le croient progresser. Tu es appelé à triompher. Maintenant, tu ne peux pas marcher par ce que tu vois. Parce que ce que tu vois ne sont que des illusoires. Ce que tu vois là ne sont que des faits. Ce que tu vois là, ce ne sont que des réalités. Mais ce auquel tu dois t'appuyer, appuie-toi sur ce que Dieu dit. Qui est la vérité? Parce que c'est la vérité qui va tout changer. La parole de Dieu va tout changer. La parole de Dieu a changé. A changé. Il y a toute une liste de personnes dans la Bible auxquelles la parole de Dieu a changé complètement leur vie. Béni soit le nom du Seigneur. Triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Voyez-vous? Ce qui veut dire, la Bible dit que la victoire qui va t'aider à triompher, c'est ta foi. Mais cette foi-là, comment l'obtiendras-tu? Si tu ouvres seulement tes oreilles à tout ce que les médias disent, si tu ne prends pas le temps d'écouter ce que Dieu dit, si tu ne prends pas le temps de venir à la retraite pour entendre tous les messages, si tu ne prends pas le temps parfois de t'asseoir, de fermer la télé, et puis ouvrir ta Bible, ou bien écouter tout ce qu'on a enseigné, d'autres enseignements, si tu prends seulement le temps de s'asseoir et d'écouter tous les coups de fil qu'on t'envoie, des coups de fil de personnes qui n'ont ni espérance, ni vision, des coups de fil de personnes qui passent toute la semaine à placoter, bra, 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 bra. Des coups de fil de personnes qui t'appellent, et ce qui remplit leur cœur, c'est la jalousie. Mais pourquoi lui, il est en train de progresser comme ça? Et pour qui il se prend? Il veut se montrer. Voyez-vous, toi tu écoutes les gens qui parlent comme ça. Et fouillez-les. Ils sont contagieux. Vous savez, beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils sont mal branchés. Ils ont des liaisons, dites liaisons, hein, des liaisons bizarres, des connexions sourdites. Quelqu'un qui ne monte pas haut ne peut pas t'aider à monter loin. Quelqu'un qui est négatif, il va te rendre comme une batterie vraiment à plat. Je disais, qui est là? Ça craque là. Eh, il faut bien être connecté. Il faut connecter avec des vrais. Dites des vrais. Des vraies personnes. Connecte-toi. Connecte-toi avec quelqu'un qui peut te dire, ce que tu vois là, ce n'est que des illusions. Ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ne vous en faites pas parce que les choses vont changer. Vous savez, ici les Écritures ne nous promettent pas que Jésus nous sauvera des mondes qui veulent nous terrasser. Mais qu'en lui, nous pouvons vaincre ce monde. D'après ses paroles, si nous vivons, si nous pensons et nous agissons comme des citoyens du royaume, tu finiras par expérimenter ce que Dieu a planifié, ce qui veut dire le succès et la victoire. Vous savez, il y a des moments parfois quand les gens parlent du succès et de victoire. Oh, mais pasteur, mais on ne parle que de ça, succès et de victoire, mais on ne le voit pas, on ne le vit pas. Mais attends, si toi tu ne le vis pas, cela ne veut pas dire que les autres ne le vivent pas. Mais attends, comment peux-tu mélanger les choses? Oh non, maintenant on parle seulement de la prospérité. Mais pourquoi on ne vit pas la prospérité? Mais est-ce que toi tu connais quoi ça la prospérité? Mais est-ce que as-tu marché selon les principes de la prospérité pour que ça se reproduise? Mais mon ami, mais pourquoi on ne voit pas le succès dans le domaine de nos vies? Mais regarde d'abord. Regarde comment tu mènes ta vie. Les amis, on ne peut pas venir écouter la parole de Dieu et en sortant mener une autre vie. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, moi je suis le cep et vous êtes le sarment. Demeurez à moi. Celui qui demeure à moi portera quoi? Des fruits. On ne peut pas porter des fruits tant qu'on ne demeure pas. Demeurer, ça veut dire demeurer dans la parole. Demeurer, ça veut dire quand tu sors de cette bâtisse, vis la parole. Vie, parle comme quelqu'un qui marche, qui parle comme un homme de parole, parle en crainte de Dieu, parle en respect, parle en une bonne attitude, parle en bonne relation. Bah. Mais toi tu sors de la baptiste, tu es seulement chrétien, tu lèves les deux mains à l'église, alléluia, alléluia. Mais quand tu sors dehors, tu es dans le compromis. Tu es dans le compromis. Tu fréquentes des personnes qui parlent n'importe comment. Vous savez qu'il y a d'autres personnes, ils n'iront jamais. Moi, je connais des personnes. Ces gens-là, ils ont condamné leur vie eux-mêmes. Pourquoi? Premièrement, à cause de la méchanceté dans leur cœur. Vous savez, un cœur jaloux. Dites un cœur jaloux. Dites un cœur jaloux. Répétez encore, un cœur jaloux. Dernièrement, j'étais en train de le prêcher en Afrique. Je disais, la jalousie, c'est une des choses qui détruit les Africains. Très jaloux. Mais d'une jalousie bénévole. Vous voulez qu'on casse les baraques, hein? Mais parlons sérieusement. Mais ce qui nous détruit, c'est quoi? C'est la jalousie. Un esprit mesquin. Il vient, il se lisse sur toi. Dans tes pensées. Et même quand tu ne parles pas, toi-même, tu sais. Dans ton cœur. Et parfois, tu ne dis jamais un mot. Et les gens disent, oh, c'est du moment de rien. Au fin fond de toi. Tu es tellement aigri. Jaloux. Et vous savez que la jalousie détruit même des potentiels. Oh, peu importe le potentiel que tu peux avoir, mais si tu es jaloux, ça va annihiler, ça va détruire tes potentiels. Les amis, s'il y a un esprit qu'il faut abattre, c'est la jalousie. La jalousie n'est pas de Dieu. La jalousie ne vient jamais de Dieu. Dites avec moi, je me repense ce matin. Hein. La jalousie. Et ce qui détruit plusieurs continents, c'est ça la jalousie. Ils sont toujours là, amers, aigris. Il est là, regarde. Connaissez le dessin, le petit Pokémon, le petit dessin là. Et les gens sont comme ça, ils sont comme ça, plein de jalousie, plein de jalousie, plein de jalousie, plein de jalousie. Et il y a d'autres même, ils réussissent, ils ne veulent pas que les autres réussissent. Et c'est pourquoi même, tu sais quand tu réussis seul, quand tu réussis toi seul, tu montes, mais le jour que tu vas tomber seul. C'est pourquoi vous voyez des gens qui pensent que non, ils ont reçu, ils ont amassé de l'argent à la banque, ainsi de suite. Là. Après, quelques minutes après, on les rafle tout et ils se retrouvent vides. Mais ce gars-là, il avait des milliards. Mais non, il était méchant. Bon, désolé, ici c'est comme ça. Les amis, il y a des choses que nous, si nous voulons aller loin, il y a des choses qu'on doit annuler. Il y a des choses que, vous savez, pour s'en sortir de ces esprits-là, il faut être conscient. Il y a des moments, parfois, tu es là, tu sais que ça se trouve là, mais tu ne veux pas l'admettre. Mais tout commence par l'admettre. Tu dis, moi je vois que dans mon cœur, il y a quelque chose de n'est pas propre. Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi parce que je veux me débarrasser de ça. Parce que ça m'a amené nul. Il y a un pasteur québécois qui m'a dit, pasteur, tu sais, le Québec est vraiment animé de cet esprit de jalousie. Je dis, je le vois. Ce n'est pas seulement l'Afrique. Mais c'est une attitude du cœur. Les gens sont jaloux pour n'importe quoi. Jaloux. Mais la jalousie commence parce qu'on voit quelqu'un monter quelque part, mais vous ne savez pas comment il est arrivé là. Maintenant, vous ne voyez que l'élévation, mais vous ne savez pas comment. Toute l'amertume, tout ce qu'il a subi pour arriver là. Qui est là? On peut continuer? Nous voyons que tout enfant ou citoyen du royaume est un bâtisseur de rêves et pas un destructeur. Soit transformé en bâtisseur de rêves. Des rêves pour toi-même et des rêves pour Dieu. Tu sais, il faut te décider d'être transformé en bâtisseur de quoi? De rêves. Dites bâtisseur de rêves. Dites, je vais être transformé en bâtisseur de rêves. Dis ça. Seigneur Jésus, aide-nous. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gardez cela dans votre esprit. C'est ta foi qui t'aide à faire quoi? Ce qui veut dire que tu dois nourrir ta foi pour que tu triomphes. Ce qui veut dire que tu dois nourrir ta foi pour que tu triomphes. Tu dois nourrir. Tu dois la nourrir parce que la foi ressemble à un muscle. Bâtisseur de rêves. Quelqu'un qui bâtit des rêves, c'est quelqu'un qui bâtit sa foi. Lisons un peu dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er. 16, 1. Ok. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire. » Dieu dit, je fais quoi? Je vis. En fait, ici, l'histoire, on parle du roi Saoul. Roi Saoul, Dieu l'a fait, c'est qu'il était devenu, mais à un certain moment, il a dit, oh, bon, écoutez, je fais ce que je veux. Vous savez, la manque de reconnaissance, parfois, dans la vie, est un danger. Suivez-moi. La manque de quoi? De reconnaissance dans la vie, c'est un danger. Vous savez, quand vous regardez l'histoire de Saoul, peu importe, c'est vrai que c'est des gens qui l'ont réclamé. En fait, quand Saoul était devenu roi, si vous regardez bien, c'était les gens qui l'ont réclamé. C'était les gens qui ont dit, non, les pays tout autour de nous ont des rois. Nous aussi, on aimerait bien avoir quoi? Un roi. Dieu les a dit, mais attends, mais Samuel est là. J'aimerais bien être votre conseiller. Mais pourquoi? Il a dit, non, on n'en a pas besoin, nous voulons un roi. Et finalement, Dieu les a dit, mais écoutez, je vous donne un roi, mais attendez-vous aux conséquences. Et puis finalement, Dieu les a donné le roi Saoul. Le roi Saoul a été réclamé par des humains. Et puis finalement, le roi Saoul en prenait la place, en bref, il a fait ce qu'il voulait. À un certain moment, il ne voulait même pas suivre les instructions de Dieu. Il se croyait tellement fort, un roi puissant, parce que quand vous lisez la biographie de Saoul, c'était un gars vraiment bien bâti, très fort, très beau. Il y a des moments parfois, Dieu nous élève à un niveau, on oublie. Est-ce que vous êtes là? Il y a des moments, attends, on peut avoir des talents, mais la vraie élévation vient de Dieu. On peut avoir des capacités, des potentiels, mais c'est lui qui va t'élever, c'est Dieu. Et c'est ça qui était arrivé. Le roi Saoul, à un certain moment, il ne s'appuyait pas sur Dieu. Il ne s'appuyait plus sur celui qui a fait de lui ce qu'il était devenu. Les amis, nous devons apprendre à faire des actions de grâce, avoir des moments où nous nous levons devant Dieu en disant, « Seigneur, je suis ce que je suis à cause de toi. » Seigneur, je respire, je suis en bonne santé. Seigneur, tu m'as donné une famille. Seigneur, je te rends la gloire. Seigneur, reconnaissez ce que Dieu a fait. Tu me diras, mais pasteur, et ceux qui ne croient pas en Dieu, mais est-ce qu'ils doivent la reconnaissance à qui? Ne vous en faites pas, parce qu'au fin fond de leur cœur, ils savent. Mais toi, tu ne vas pas te comparer avec eux. Mais toi, tu sais que toi, tu as la vie éternelle. Tu es lavé par le sang de Jésus, quelque chose qu'eux n'ont pas. La reconnaissance. Et c'est ça qui a coûté. Ça a coûté à ces rois-là. Ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. À un certain moment, ils prenaient des décisions comme ils voulaient. Et ne voulaient même plus entendre le prophète Samuel. Mais alors qu'ils devaient consulter le prophète Samuel pour qu'il donne des directives qui venaient de Dieu. Les amis, attends. C'est vrai que pour le moment, nous vivons un moment où nous enseignons à tout le monde de chercher à connaître la direction divine dans ta vie. Il ne faut jamais prendre des décisions sans vraiment avoir du temps dans la présence de Dieu. Et si toi-même tu n'arrives pas, pourquoi ne pas consulter? Pourquoi ne pas aller voir des aînés dans la foi? Dites des aînés. Il y a des personnes qui sont plus matures qui peuvent vous donner des conseils. Les amis, il y a toujours, Dieu suscite toujours dans les églises des hommes et des femmes qui sont capables de vous donner des vrais conseils. Pas des conseils pour vous détruire, mais des conseils pour vous remettre sur le rail. Et ne fais pas la tête, s'il vous plaît. Utilise la matière grise de la tête de quelqu'un d'autre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il faut apprendre parfois à marcher dans la simplicité pour dire, écoutez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Est-ce que toi, tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? C'est pourquoi il faut toujours veiller à qui tu vas demander les conseils. Parce que s'il n'a pas la profondeur, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux de demander le conseil à quelqu'un qui n'a pas une profondeur. Et c'est pourquoi, béni soit le nom du Seigneur. Mais les conseils sont bienvenus. Alors Saül a pris ses décisions, ainsi de suite. Et Dieu a dit, mais écoutez, je crois que son temps est fini. Maintenant, il dit au prophète Samuel, va dans la maison d'Isaï. Je te montrerai quelqu'un que j'ai choisi. C'est ça. Parmi ses fils, celui que je désire pour roi. Lisons dans 12. Isaï l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Car qui c'est... Bon, vous voyez, vous connaissez l'histoire que David est un gars oublié. Hein? David est un gars oublié. Il était oublié de la famille, mais pas oublié de Dieu. Il était oublié des humains, mais pas de Dieu. Regardez-moi, tu peux être oublié des individus. Tu peux être oublié du système, mais pas de Dieu. Les amis, mieux vaut ne pas être oublié par Dieu. Regardez-moi ce jeune garçon. À 17 ans, il élevait des moutons et personne ne faisait cas. Quand on a demandé à son papa de présenter le futur roi, il a fait défiler des gens. Vous lisez la liste. Les grands frères de David, mais c'était des costauds. Quand ils faisaient trembler leur biceps, c'est grave. Et puis la Bible dit qu'ils étaient costauds et plus beaux. Et quand ils arrivaient quelque part, vous savez que même le prophète a été impressionné. Lisez. Le prophète Samuel a été impressionné quand il a dit les grands frères, quand il a vu le grand frère de David, il a dit, waouh, ça là, je crois que c'est lui. Dieu lui a dit non. Il voit encore un autre. Il fait ça. Il dit, c'est lui. Il dit non. Vous savez, attends, ne faut jamais penser que les hommes de Dieu ne se trompent pas. Ils peuvent se tromper. C'est parce qu'on peut avoir un jugement selon l'humain. Est-ce que vous êtes là? Regardez bien l'histoire du le grand prophète Samuel. Il voit le grand frère de David qui vient. Qui s'écoute, c'est lui. Dieu lui dit non, ce n'est pas lui. Deuxième arrive, dit c'est lui, il dit non, ce n'est pas lui. Troisième arrive, il dit certainement, c'est lui. Dieu lui a dit, ce n'est pas lui. Il y a des moments parfois on jette des blâmes à des hommes de Dieu. Vous entendez, ils disent bien des hommes de Dieu avant qu'ils deviennent des dieux, des hommes. C'est des humains. Et s'il ne fait pas attention, il peut prendre parfois une décision. Il peut parfois voir les choses d'une manière humaine. Mais maintenant, ce n'est pas pour autant que tu dois passer tout ton temps à les calomnier, de les critiquer. Parce que toi-même aussi, tu es... Ah! Ne vous associez pas à ces gangs du monde-là qui passent leur temps à critiquer les gens de leurs églises. Critiquer. Mais tu sais que quand tu critiques, tu te démolis toi-même. Tu te démolis. Moi, je ne peux pas vous dire qu'en même temps, de bon aussi, je suis parfait. Rien, je ne vous ai jamais dit que je suis parfait. Jamais. Mais moi, je sais que Jésus est parfait. Je sais, je crois dans la crainte de Dieu. J'ai marché dans la crainte de Dieu. Mais je crois que celui qui est parfait à moi, Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, ne me demandez pas d'être comme Jésus. Parfait, non. Alléluia. Qui est là? Alléluia. Mais attends, je fais mon effort. Je bâtis ma relation avec Dieu. J'aime, je crois dans la crainte de Dieu. J'ai marché dans l'intégrité. Mais je sais que je peux manquer. Je peux manquer dans un rendez-vous. Je peux dire oui. Mais et puis j'arrive, au lieu d'arriver à 30, j'arrive à 20. Et puis commencer à s'expliquer. Moi, je n'explique pas, je dis, je suis arrivé, c'est tout. Maintenant, vous savez, à d'autres personnes, mais non, toi, tu es le pasteur, tu devrais être là. Attends. Mais attends, vous savez, nous devons apprendre à nous. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu n'aimes pas qu'on fasse à quelqu'un d'autre, ne le fais pas pour toi. Vous savez, l'amour nous aide à parfois à passer au-dessus. Moi, actuellement, ce que je suis en train de trouver anormal, c'est que les chrétiens qui passent leur temps à juger les hommes de Dieu. Mais quand vous regardez bien, et ça est en train de sécher l'Église, je dis le corps de Christ est partout. Hein. Et souvent, ceux qui les calomnient, même ceux qui donnent des informations, c'est des chrétiens qui vont expliquer la vie de l'Église à des païens. Ils sont à l'Église, vous voyez, ils sont là à l'Église, ils sont là. Il y a d'autres qui sont seulement des tireurs d'informations. Ils sont là, mais ils cherchent des informations. Ils sont là dans la salle, mais ils ne sont pas venus pour apprendre. Ils sont venus seulement pour entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Et puis il sort dehors, il prend son célèbre. Attends, regardez un peu ce qu'il a dit. Ah, vous savez, il y a des gens qui sont... Un jour, je me souviens, j'étais en train de prêcher ici à l'auditorium Marianne. Alors, il y a des grands théologiens qui ont envoyé des étudiants de la théologique pour qu'ils viennent analyser. Parce que dans la théologie, il y a ce qu'on appelle En tout cas, il faut faire une autocritique sur le message. En tout cas, il y a un terme théologique. Alors, ils m'ont envoyé toute une école biblique, là, de théologiens qui sont venus dans la foule. Et là, ils étaient en train de prendre note sur l'introduction. Est-ce qu'il a dit vraiment la clause qu'il fallait? Je savais qu'ils étaient là. Et moi, je m'en foutais du tout. Je continuais. Et faire mon exposé, j'exposais la parole. Et vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, tous les étudiants qui étaient venus de cette école-là n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ce soir-là, tous étaient baptisés du Saint-Esprit. À la fin, je dis, allez faire maintenant votre rapport. Dites-leur que nous avons été baptisés quoi, du Saint-Esprit. Expliquez-moi maintenant ces affaires-là. Dites ces affaires-là. Vous savez, c'est ça. Les gens, parfois, au lieu de dire, je ne connais pas, je vais apprendre. Et d'autres personnes, vous les voyez dans les églises, tout ce qu'ils font, c'est aller voir. Ah, tel sœur, qu'est-ce qu'il a dit? Je vis un tel. Mais tu n'es pas venu pour voir un tel. Tu es venu parce que tu veux t'instruire. Tu es venu parce que tu veux bâtir une relation. Tu es venu parce qu'il faut que le rêve de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Tu es venu parce que tu veux devenir un bâtisseur de rêves.
Amen. Alléluia.
Merci.
Amen.
C'est formidable. Verset 12. Il dit, il était blanc, cherchant. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit, Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Ils sont un peu dans un autre passage. 1 Samuel 13, 14. Du bâtisseur des rêves. 1 Samuel 13, 14, il dit quelque chose. Il dit, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Mais j'aimerais bien que nous gardions la partie, deuxième partie qui dit, l'Éternel s'est choisi un homme. Dites un homme selon son cœur. Et là, on parle de David. On est en train de parler de David. Dites David. Dieu traite David de l'homme selon son cœur. Mais regardez-moi, allons un peu plus loin, nous allons voir comment Dieu traite David, l'homme, selon son cœur. Lisons dans 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 3. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 3. Vous venez d'entendre que Dieu dit, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Le bâtisseur de rêves. David était un bâtisseur de rêves. Lorsque le roi habita dans sa maison, dites dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Dites de tous les ennemis. On parle de David ici maintenant. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu a trouvé. Dieu a trouvé David. Dieu a trouvé, écoutez-moi bien, Dieu t'a trouvé en Christ. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu es la personne que Dieu a trouvée. Vous êtes le choix de Dieu. Dites, je suis le choix de Dieu. Répète avec moi, je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu peux répéter avec moi, je suis le choix? Dites avec moi, Dieu m'a choisi. Ce n'est pas un comité qui t'a choisi. Non, tu n'as pas été choisi par je ne sais pas qui, mais Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. La Bible dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Je l'ai choisi. Nous sommes choisis en Christ. Ne te regarde pas comme tu te regardes parce que Dieu t'a choisi. En Christ, tu es le choix de Dieu. Mais pourquoi tu ne peux pas dire un bon amen? Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Et quand Dieu choisit, il met tout à son service. Regarde-moi, ce que tu vois maintenant, c'est un sujet à changement. Ne faut pas être bouleversé par ce que tu vois. Comprenez que Dieu t'a choisi. Et comme Dieu t'a choisi, comme il a choisi David, l'homme selon son cœur, Dieu t'a choisi en Christ. Il t'a lavé, il t'a purifié, il t'a mis à part. C'est pourquoi tous les dimanches, tous les mercredis, quand il te parle, c'est parce que Dieu est en train de rendre visible le choix qu'il a fait dans ta vie. Parce qu'il doit t'amener à un niveau qu'aucune personne ne peut t'amener, mais c'est lui seul qui connaît les secrets. Parce que c'est lui qui a établi le plan. Dieu a le secret de ta vie. Qui sait que Dieu a le secret de sa vie? Ah, donnez une bonne main d'acclamation à notre Jésus. Alléluia. Il a le secret. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis. Dieu, il est celui qui te donne du repos. Regardez-moi. Peu importe le trouble, mais ne vous en faites pas, il y a un temps du repos. Peu importe les zigzags, peu importe ce que tu vis financièrement, et si c'est dans ton emploi, tout, Dieu te dit, il y a un temps du repos. Il y a le repos. Il y a un temps du repos. Il y a un temps du repos. Et nous voyons aussi David, Dieu veut lui donner un temps de repos. Il était menacé constamment par des faux rois, des mauvais qui l'entouraient. Tout le pays tout autour qui l'entourait, il n'avait pas de repos, mais Dieu lui a dit, maintenant je te donne du repos. Regarde-moi, quand Dieu te donne du repos, il faut que tu réfléchisses. L'Éternel lui donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis. Regarde-moi, tous les ennemis, dites tous les ennemis.
Tous les ennemis.
Mm-hmm. Qui l'entouraient. Continue, verset 2, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit à Nathan, ça c'est David qui parle, il parle au prophète, il dit au prophète Nathan, le prophète, voici, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Verset 3, il dit, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. J'aimerais bien focaliser sur ici. Nous voyons, notre thème c'est le bâtisseur de rêves. Nous voyons premièrement le choix de Dieu. Dites le choix de Dieu. Dieu choisit un monsieur. Dieu choisit David. Mais quand Dieu choisit quelqu'un, il met quelque chose en lui. Quand Dieu choisit quelqu'un, il dépose. Et Dieu, en choisissant David, il a déposé un rêve. Un rêve. Est-ce que chacun de vous ici sait qu'il y a un rêve que Dieu a déposé en toi? Dieu a mis en toi un rêve. Comme il a mis dans le cœur de David. Nous venons de lire que David, après avoir reçu la délivrance de tous ses ennemis, il va voir le prophète et dit, mais attends, maintenant je vis dans une belle maison, mais l'arche de l'Éternel vit dehors. Moi je suis bien stable. Attends, je suis dans une belle maison, mais maintenant l'arche de l'Éternel, l'arche représentait la présence de Dieu qui est là. Il dit, mais l'arche de l'Éternel qui représente quoi? La présence de Dieu vit quoi? Dehors. Hello? Attends, ne voyons pas, parce qu'on peut l'expliquer, on peut le prêcher de plusieurs manières, mais j'aimerais bien parler un peu du rêve. Dieu a trouvé David selon son cœur. Dieu a trouvé l'homme qui devrait accomplir le rêve. Et Dieu a mis en David le rêve. Et David parle au prophète en disant, moi je vis dans toutes les luxes possibles, je suis bien. Mais comment se fait-il que l'arche qui représente la présence de Dieu est dehors? Moi je suis bien, je suis dans une belle maison, mais la présence de Dieu est banalisée, est dehors. A dit, j'aimerais bien, si vous lisez la liste, si vous continuez, vous allez voir que David prend la décision de faire quoi? De construire quoi? Le temple. Oh! Dites la construction. Je vous parlais de David qui a un rêve que Dieu avait mis dans son cœur, et il dit que non, moi je vis dans toutes les étapes possibles, je suis bien, je suis béni, je suis dans une belle maison, mais l'arche qui est la présence de Dieu doit rester dehors. Non! Il faut que je fasse quelque chose. Quand on a un rêve de Dieu, on ne reste pas oisif. Quand on a un rêve de Dieu, je dis bien, je parle bien, il y a le rêve des hommes et il y a le rêve de Dieu. Qui est là? Il y a le rêve des hommes et le rêve de Dieu. Et vous savez, Dieu peut donner un rêve pour un ministère, comme Dieu peut donner aussi un rêve pour ta propre vie. Il y a un rêve. Prenons, mettons, parlons cela de deux sens. Il y a le rêve, Dieu peut donner une vision à une église, un ministère. Mais il y a aussi une vision pour ta propre vie. Vous savez, quand on parle d'une vision, on voit toujours la vision d'un ministère, la vision d'une église. Non! On ne s'arrête pas seulement à la vision d'une église, la vision d'un ministère, mais la vision de ta vie. Il y a un rêve pour toi. Tu es né pour accomplir quelque chose. Tu es né pour réaliser quelque chose. Cette société a besoin de toi. Et ce que Dieu a mis en toi est pour aider la société. Et c'est pourquoi Satan va travailler. Il va te faire croire que non, tu ne vaux rien. Toi, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien de bon que tu peux réaliser. N'écoutez jamais ça. Hello? Je disais, allô? Est-ce que vous savez que la société a besoin de personnes qui ont une relation avec Dieu? Qui est d'accord avec moi? Moi, je bénis le Seigneur. Je rencontre actuellement parfois des personnes. Quand tu dis non, moi, je suis la deuxième personnalité de ce pays. Moi, je suis... Je dis, mais tu es un frère? Oui. Et quand je les regarde comment ils marchent dans la crainte de Dieu, je dis, voyez-vous, ce pays avait besoin d'une personne comme lui. Les amis, il y a des moments où nous pensons que la politique, on doit les laisser aux politiciens. C'est faux. Et parfois, Dieu, le rêve que Dieu a mis en toi, c'est pour que tu sois quelque part, que tu sois positionné dans la politique quelque part, pour que tu puisses amener la lumière. Mais ne vous en faites pas, c'est ces politiciens-là qui nous conduisent. Mais qui sont là? Est-ce que vous êtes là? Voyez, c'est ça qui manque dans les églises. Voyez, c'est ça qui se passe. Les chrétiens sont là comme des petits. Ils pensent que tout simplement, you know, ils viennent, on prie. Alléluia. Oh, alléluia. Et le Seigneur te dit, mais attends, quand tu étais né, avant que tu naisses, j'avais mis toi, ta part, c'est que tu dois être une lumière qui doit briller, mais dans le monde politique. Ta place est dans la politique. Ah, regardez-moi, pasteur, moi, vraiment, moi. Il y a d'autres personnes. Tu gaspilles ton temps quelque part. Mais il faut que tu pries Dieu. Et parfois, il y a des moments dans ton cœur, tu vois que ce que tu fais là, ce n'est pas ça que tu devrais faire. Quand tu vois que ce que tu fais, ce n'est pas ça que tu devrais faire, commence à te poser la question, Seigneur, dans quoi tu veux m'amener? Dites un rêve. Dites le bâtisseur de rêves. Dites encore le bâtisseur de rêves. Mais attends. Seulement les croyants, les chrétiens. J'aimerais bien vous réveiller, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Moi, je suis très content dans d'autres pays quand je rencontre parfois, en Inde, quand on était arrivé en Inde, la personne, tu te rencontres, le premier ministre de l'Inde, il priait en langue. Je dis, hé, je suis le premier ministre. Et il nous a embarqué un ministre qui transportait nos passeports. Et c'est un chrétien rempli du Saint-Esprit. Mais je dis, mais attends, regarde-moi dans un pays comme l'Inde. Mais tu te rends compte, on allait se retrouver entre les mains de n'importe qui déteste l'évangile. Mais Dieu a positionné des personnes. Et c'est des ministres qui transportaient nos... Et c'était des frères, on savait qu'on est de la même famille. Et ils nous embarquaient même, ils voulaient être sûrs que nous avons pris l'avion, que dès qu'on atterrissait là-bas, on dit, vous êtes bien arrivés? Oui. Directement, il appelait le gouverneur. Gouverneur, est-ce que tu peux t'occuper de ta... Béni soit le nom du Seigneur. Et s'il était chrétien, il disait seulement, non. Moi, je crois que moi, je vais rester seulement directeur d'une société. Je vais rester seulement travailler dans telle industrie. Ah non. Moi, ces affaires-là, c'est abominable, abominable. Tu te rends compte? Je crois que tu dois te réveiller de là où tu es. Et parfois, tu es un vrai député qui dort ici, là. Un bon député qui dort. Tu me regardes. Un bon député pour défendre des causes. Regardez-moi. Ah non, moi je suis humble, ce n'est pas moi. Mais si le rêve que Dieu a mis en toi, c'est de devenir cela, si tu ne le deviens pas, voyez-vous, tu as vécu 70 ans sur la terre sans vivre vraiment le plan de Dieu, alors que ta place était là. Dites à la personne à côté de toi, as-tu compris de quoi il parle? Hé, les amis, mais nous on est là pour vous appuyer dans la prière. On est là pour prier pour vous. Mais tu te rends compte, si tu étais appelé à être un PDG d'une société, mais toi tu continues à te sous-estimer, à penser que non, toi tu n'es qu'un vaurien. Et parfois tu es appelé à créer une entreprise, mais toi tu dis non, moi j'aimerais bien toujours travailler derrière. Mais alors que Dieu, quand il t'a créé, il a dit le potentiel que j'ai mis en toi, c'est pour que tu sois un chef d'entreprise. Mais ce qui veut dire qu'il y a un temps pour être ce que tu es, mais il y a un temps où tu dois entrer dans ta destinée. Je ne sais pas si vous êtes là. Maintenant, au ciel, il n'y aura pas de PDG, mais on en a besoin sur la terre. Au ciel, il n'y aura pas de DG, mais on en a besoin. Au ciel, on n'aura pas des infirmiers. Au ciel, on n'aura pas besoin de médecins. Au ciel, on n'aura pas besoin de tout cette... Mais ici, sur la terre, on en a besoin. Et l'église, le corps de Christ, regardez-moi, la ville ici, la ville que vous voyez ici, a besoin de personnes comme vous, de personnes intègres, de personnes qui peuvent être quelque part et puis en train d'intercéder dans le bureau. Vous êtes en train de gagner votre pain. Vous gagnez votre pain, mais à un certain moment, Rosatayama Kebabako, Losotokoria Basanda Kiria. Tu es en train de prendre position. Dis, tu prends position. Et tu es une seule personne. Demain, après demain, vous devenez deux. Vous devenez trois. Et vous commencez à vous. Vous commencez à vous répandre. Je vous l'ai dit qu'il y a des pays, je suis très content d'arriver. Quand tu arrives, il dit, pasteur, nous travaillons dans tel ministère, mais à midi, au moment de pause, nous prenons le temps de prier pendant 10 minutes. On se rencontre. Maintenant, on se connaît. Il y a d'autres qui viennent d'accepter le Seigneur dans notre département. Et puis, nous prions pendant 20 minutes. Je dis, Elle dit, pasteur, on devient un danger parce que la plupart des gens sont dans la maçonnerie, sont dans la rose croix, dans la foi Baha'i. Mais nous, nous sommes en train de faire la discernement. Mais regardez, les amis, Dieu ne nous sauve pas tout simplement pour rester ici, là. Et puis, mais on doit impacter, on doit influencer. Vous êtes appelés à influencer des bâtisseurs de reins. Moi, je me souviens, un frère est venu me dire, pasteur, tu sais, à l'université de McGill, il a rencontré un professeur, un grand professeur, un des tops de McGill. Un frère rempli du Saint-Esprit. Et quand il a découvert, il dit, mais toi, tu es un chrétien? Il dit, oui. Ah bon? Chut. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Et vous savez ce qu'il a fait? Vous savez, les amis, normalement, Seigneur, le temps me manque. Donnez-moi encore même quelques minutes, s'il vous plaît. Vous savez, on dit souvent, la charité, bien, commence par... Normalement, nous, la famille chrétienne, les enfants de Dieu, la première personne que tu dois faire du bien, c'est d'abord ton frère, ta sœur. Et c'est ça, ces messieurs-là, ces grands professeurs-là, quand il a discerné que non, le gars qui était à côté de lui, c'était... Il a dit non, il faut que je te fasse du bien. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, j'ai terminé ceci. Il dit ok, je vais connecter, je vais préparer quelque chose pour toi. Il fait un papier, il dit, va voir telle personne. Va voir, dites que tu es venu à mon nom. Il a dit, ah bon? Il arrive là-bas, il présente. Il dit, ah bon, celui qui t'a envoyé, oui. Il dit, moi aussi je t'envoie, prends. Va voir. Regarde comment Dieu travaille. Mais il a fallu qu'un enfant de Dieu, qui a compris sa destinée, et qui s'est retrouvé là où il fallait, pour ouvrir quoi? Béni soit le nom du Seigneur. Qui est là? Je disais qui est là. Voyez, c'est pourquoi il ne faut jamais être une bande de personnes qui ne voient que petit. Qui ne voit que petit. Et moi, je ne crois pas dans ces églises-là qui disent seulement, lève les mains au ciel, oh là, alléluia, au ciel, vous serez bien. Non! On doit d'abord commencer par être bien ici, sur la terre. Parce que si nos factures ne sont pas payées, on ne peut pas dire... Qui est avec moi? Je disais, qui est là? On doit d'abord commencer par être ici, bien. Et puis on ira au ciel. Moi, je suis très content. Tu te rends compte? J'arrive à Goa et c'était avec des gardes-corps. Le ministre a donné des ordres que non, vous les prenez avec des gardes-corps. Et finalement, on marchait comme ça. On était un peu. Tu sais, tu profites un peu. Tu bouges un peu les épaules. Je dis, mon Dieu. Et puis le garde-corps dit, Son Excellence. L'honorable. Je dis, l'honorable. L'honorable. Mais c'est parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a été connecté, maintenant qui fait fonctionner des choses. Les amis, même des grandes banques ont besoin des enfants de Dieu qui peuvent traiter. Vous n'avez pas compris, en tout cas, je vous laisse. Dites des bâtisseurs de rêves. Dites encore des bâtisseurs de rêves. Il a fallu un David. Il a fallu un David pour bâtir le rêve de Dieu, pour accomplir le rêve de Dieu. Saoul, on ne parle même pas qu'il avait à cœur à bâtir un temple. Saoul, écoutez-moi bien, Saoul, on ne parle pas de lui qu'il a eu à cœur à bâtir le temple. Saoul, le roi Saoul n'a pas bâti le temple. Mais seulement la personne que Dieu a choisie, Dieu a connecté. David, on entend parler du temple, de construction du temple seulement avec David. Parce que quand on est connecté avec Dieu, quand on nourrit en nous le rêve de Dieu, c'est là où la parole de Dieu s'accomplit dans le psaume 37, verset 4 qui dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. David maintenant prend la décision, dit non, moi je dors dans une belle maison, comment se fait-il que la présence de Dieu reste dehors? Non, je ferai de l'éternel mes délices. Ça veut dire, David est en train de se mettre dans une position, dans un climat où il créait l'atmosphère de la bénédiction. et du fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Premièrement, David nourrit le rêve de Dieu. David veut mettre le rêve de Dieu en action. David se décide de bâtir le temple pour Dieu et il se crée lui-même dans une position. Il se met dans... Regardez-moi, tu peux te mettre dans une position qui va susciter la gloire de Dieu. Mets-toi dans une position. Il y a des actes, il y a des gestes, il y a des choses que tu vas poser, qui va amener, qui va attirer. Des portes qui vont s'ouvrir. Oh, je le crois. Des portes doivent m'ouvrir. Des portes doivent s'ouvrir pour moi. Des portes doivent s'ouvrir pour toi. Vous n'êtes pas fait pour des miettes, nous sommes faits pour le meilleur. Des bâtisseurs de rêves. Merci. Je vais m'arrêter ici et puis on continuera.
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.